Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour parler de l'actualité scientifique sur graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet et bien sûr le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM. Je m'appelle Jean-Noël et Carole est avec nous pour cette
émission.
Bonjour
Jean-Noël.
L'actualité scientifique est quand même riche, hein. On peut dire qu'on ne s'ennuie pas dans cette émission.
C'est sûr. Là, les dernières semaines, on a eu des choses à dire et on a eu des actualités de partager avec nos auditeurs.
Effectivement, et puis on ne va pas arrêter parce qu'il y a pas mal de choses qu'on n'a pas encore eu le temps d'évoquer qui datent du mois de janvier, mais en fait, l'émission est trop courte. Je crois que je vais demander à la direction de Graphite
de rallonger,
d'avoir une émission qui dure au moins 4 heures toutes les semaines.
Non, peut-être pas. Ce serait peut-être là dur de l'alimenter.
Ce serait peut-être dur aussi à écouter, hein, je pense également pour les auditeurs. 4 heures de science, non. Point trop d'info. Nous sommes le 19 février en 1855. Urbain Le Verrier présente la première carte météorologique de France à l'Académie des sciences. Première carte météo, c'est en 1855. Et en fait, je n'avais aucune idée précise de quand pouvaient dater les premières cartes météo. Quand j'ai vu cette info, je me suis dit, mais au fait... Urbain Le Verrier qui la présente à l'Académie des sciences en 1855.
D'accord, donc milieu du 19e.
Oui, niveau
c'est vrai.
On n'a pas nécessairement une date pour cette science météorologique qu'on évoque très peu dans cette émission. Beaucoup plus proche de nous, le lancement en 1986 et la mise en orbite du premier module de la station spatiale habitable russe Mir. Tu te rappelles de la station Mir ?
Bien sûr.
Eh bien, c'était le début, le 19 février 1986. Et enfin, il y a 3 ans, une tortue femelle adulte de l'espèce Chelonoidis fantastica est découverte dans les îles Galapagos, en Équateur. Et c'était vraiment intéressant parce que l'espèce était considérée comme éteinte depuis une centaine d'années et on a quand même trouvé une tortue femelle de cette espèce en 2019. C'était un 19 février, il me semble que nous l'avions évoqué dans cette émission, ça me dit quelque chose en fait.
C'est possible.
Naissance, naissance le 19 février de Nicolas Copernic. Alors là, c'est un nom qui me dit quelque chose. Astronome, polonais. Il était également chanoine, médecin, mathématicien. Il est né un 19 février 1473. Et il est célèbre pour avoir développé et défendu la théorie de l'héliocentrisme, selon laquelle, bien sûr, la Terre tourne autour du Soleil, supposé au centre de l'univers. Et c'était totalement contre l'opinion qui était admise à l'époque, qui était que c'était la Terre qui était centrale et qui était immobile. Eh bien non, lui a prouvé le contraire et les conséquences de cette théorie qui a causé de profonds changements des points de vue scientifiques, philosophiques et religieux, bien évidemment. Eh bien, ces conséquences sont désignées comme étant la révolution copernicienne, bien évidemment, du nom de Nicolas Copernic, qui est donc né un 19 février, on ne le savait pas. Décès le 19 février 1988 d'André-Frédéric Cournant, médecin, physiologiste français. Il était naturalisé en 1941. Il reçoit le prix Nobel de médecine pour ses travaux sur ce qu'on appelle le cathétérisme cardiaque. Quand j'ai vu ça, je me dis, qu'est-ce que c'est ? C'est une méthode qui consiste à introduire une sonde dans les différentes cavités cardiaques pour mesurer des pressions et le taux de saturation d'oxygène du sang dans le cœur. Et donc, du coup, là, il reçoit un prix Nobel en 1956, ça veut dire pour des recherches qui sont beaucoup plus anciennes, bien sûr. Et c'est André-Frédéric Cournant, qui est donc né en France et qui a été naturalisé américain dans les années 40, bien sûr, qui est à la découverte de cette méthode. Voilà pour l'éphéméride du jour. Au niveau de l'actualité, je vous en parlais il y a 15 jours. Je n'ai pas eu le temps de l'évoquer la semaine dernière. Il y avait tellement encore d'actualité à évoquer la semaine dernière que j'en parle maintenant. C'est ce satellite Khéops qui a été lancé fin 2019. C'est l'Agence spatiale européenne.
On en avait parlé dans le...
En fait, on en avait parlé parce que ça date du mois de janvier. Hein. On n'en parle que maintenant. Et ce satellite avec pour mission principale l'étude d'étoiles voisines de notre Soleil qui sont connues pour abriter ce qu'on appelle des exoplanètes dans leur système stellaire. Et donc, avec une précision de mesure assez intéressante, eh bien, cette mission vise à caractériser précisément les tailles et les densités de ces exoplanètes qu'on arrive à détecter. Et parmi ces sujets d'étude, on trouve une étoile qu'on a appelée WASP-103, située dans la constellation d'Hercule, autour de laquelle il y a une exoplanète qui est 2 fois plus grande que Jupiter et 1,5 fois plus massive que Jupiter. Donc on sait déjà que Jupiter, c'est quand même pas n'importe quoi comme planète. Donc là, on a quand même quelque chose de beaucoup plus volumineux, qu'on a appelé WASP-103b, hein, parce qu'au bout d'un moment, on n'a plus d'idée. En fait, elle a été découverte en 2014 et les astronomes ont été surpris par sa forte proximité vis-à-vis de son étoile parce que cette exoplanète réalise une révolution en seulement une journée. Donc c'est vrai que c'est assez rapide, assez étonnant. Et donc, ils ont suspecté alors que la planète était soumise à des effets de marée assez extrêmes. Mais ils n'étaient pas en mesure de pouvoir avoir une indication précise sur ces effets de marée. Et donc, ce satellite qui est utilise une méthode particulière pour pouvoir essayer d'avoir des observations, une caractérisation assez précise de ces exoplanètes. En mesurant régulièrement la luminosité d'une étoile, on peut détecter une baisse de la luminosité périodique. Et ça, on l'associe au passage d'un corps céleste devant l'étoile. C'est ce qu'on appelle un transit. Et en observant et en comparant 12 observations de transit de cette planète, eh bien, les astronomes ont détecté des petites différences qui ont été associées à la déformation de cette planète. Et ils ont essayé d'en savoir un petit peu plus. Et on fait une analogie par rapport à la Terre, parce que la marée, c'est bien sûr un phénomène connu sur Terre. Les masses d'eau à la surface de notre planète sont soumises à l'attraction gravitationnelle exercée par la Lune, bien évidemment. Et bien, dans le cas de cette exoplanète WASP-103b, l'échelle du phénomène est largement plus grande, parce que vous avez compris qu'on est dans des dimensions beaucoup plus importantes. Et du coup, du fait que cette exoplanète soit vraiment très proche de son étoile, les effets de marée sont très prononcés, ce qui va déformer la planète entière. Et en clair, on s'est rendu compte, et c'est ça que ça a été... Enfin, on a eu cette information qui a été assez relayée pendant le mois de janvier. On s'est rendu compte que cette planète présentait plus une forme ovale, genre ballon de rugby.
J'aime beaucoup la comparaison, l'analogie.
Mais, ouais. Mais comme ça, on voit en fait à quoi ça ressemble par rapport à un ballon de basket, en clair. Et ça, par rapport à cette force qu'il y a, de ces marées qui arrivent à déformer la planète pour lui donner une forme de ballon de rugby. Alors attention, c'est pas non plus hyper aplati. Enfin, on reste quand même sur des choses sphériques d'une façon générale. Mais en tout cas, on a une forme assez inédite de cette exoplanète qui est totalement atypique et c'est du jamais vu, bien sûr. Ils ont pu, on le sait que maintenant, parce qu'ils ont quand même voulu essayer d'avoir un petit peu plus de précision, d'essayer de comprendre un petit peu mieux ce phénomène, d'essayer de confirmer ce qu'ils ont au départ plutôt pressenti. Et on est bien voilà, sur une forme assez spécifique de cette exoplanète WASP-103b et on se rend compte que cette planète s'éloigne doucement de son étoile, si bien qu'elle risque de perdre de plus en plus cette spécificité, bien évidemment, parce que plus elle s'éloigne de son étoile, plus ses effets de marée seront de moins en moins importantes et donc du coup vont de moins en moins déformer cette planète qui cause cette dérive assez particulière. C'est du jamais vu et c'est assez original parce que finalement, maintenant, quand un enfant dessinera une planète en forme de ballon de rugby, on dira oui, ça existe.
C'est vrai.
Non, c'est vrai.
Non, par contre, c'est assez fascinant de comprendre les phénomènes qui entraînent en fait cette forme-là, cet aspect-là, et de voir ce qu'ils ont réussi à déterminer. Ouais. Ouais, ouais.
Ce qu'on ne se rend même pas compte, c'est la puissance en fait des phénomènes qui sont exercés. On ne s'en rend pas compte du tout parce que tout pour déformer une planète...
Oui, on ne parle pas d'une petite marée, là.
On ne parle pas d'une petite marée, effectivement. Et donc, il y a vraiment une pression importante. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est aussi en train d'observer des choses assez éloignées aussi, fatalement. Enfin, c'est ça aussi qui est intéressant dans ce genre d'informations, c'est qu'on arrive à savoir ce qui se passe très, très loin. Et des fois, on ne sait pas ce qui se passe chez le voisin. Tu vois. On a des choses qui sont toujours intéressantes, parce qu'on a des fois des inconnus très proches de nous, mais on sait ce qui se passe très, très loin. C'est aussi des... Il y a une notion d'échelle qui m'échappe quelque part. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, c'est, tout à fait.
Ça me fascine toujours de... J'ai même pas des informations sur des distances, en fait. On les a même pas, parce que je pense qu'il y aura tellement de zéros qu'au bout d'un moment, ça ne veut rien dire.
On ne se représente pas, en fait.
Non, quand on est à la radio, il y a des moments où les chiffres, on peut pas trop en parler, parce que ça nous échappe totalement. Mais là, on est sur des chiffres importants en termes de distance, en termes de puissance, et ainsi de suite, qui font que le fait d'avoir une planète en forme de ballon de rugby... Eh bien, ça a interpellé énormément la communauté scientifique des astronomes entre autres parce qu'il y a eu des répercussions au niveau des médias internationaux, bien évidemment, dans ce domaine-là. Voilà ce que je voulais évoquer pour démarrer cette émission.
Très intéressant.
Bien évidemment. Et toi, Carole, tu nous parles de quoi ?
Alors moi, je vais passer à un sujet, j'allais dire, complètement différent, que j'avais en fait identifié il y a déjà un certain temps, puisqu'au départ, ça a été publié à la fin de l'année 2020. Mais je trouvais qu'en cette période de début d'année, c'était intéressant de parler des odeurs. On sait, hein, on néglige souvent en tant qu'être humain, souvent ce sens-là. Hein. C'est vrai qu'on est beaucoup sur
Arrête
la vision.
Arrête de me regarder quand tu
choses.
Parles de ça, c'est très blessant.
Mais, non, ne te sens pas visé. Mais en fait, voilà, quand on en parle avec les gens, on sent quand même cette importance des odeurs, de tous les souvenirs que ça nous permet de retenir, etc. De tous les univers qui sont créés grâce à ça. Et en fait, ce qui m'avait... J'avais jamais pu en parler ici dans l'émission, mais ce qui m'avait attiré dans cet article, en fait, c'est la perspective, justement, d'avoir un jour une encyclopédie qui permettrait de découvrir... les odeurs en fait du passé. Il y a des chercheurs qui sont en train de la créer et qui du coup par exemple essayent d'imaginer qu'est-ce que sentait la ville de Paris au XVIe siècle. Et c'est là où c'est fascinant parce que des fois on regarde des reconstitutions historiques, on a l'impression qu'on sait comment c'était en termes d'architecture, dans les rues, l'ambiance. Et là ça rajouterait une composante où en plus on saurait comme ça en immersion avec l'odeur qu'il y avait réellement à cette époque-là. Et en effet, ce qu'on imagine c'est qu'en fonction des différentes périodes, on n'était pas du tout sur les odeurs actuelles, les rues ne sentaient pas du tout la même chose, etc. Donc du coup... c'est un article qui avait été publié à l'époque dans Le Monde avec l'aide de l'AFP et qui nous dit qu'en fait, pour voyager dans le passé, grâce à l'odorat, eh bien, un groupe d'historiens, d'experts en intelligence artificielle, de chimistes et de parfumeurs, donc on voit que c'est quand même à la frontière de plein de domaines, eh bien, il va recréer pour des expositions les odeurs qu'on trouvait en Europe du XVIe siècle au XXe siècle. Et en parallèle, comme ça, ça leur permettra de constituer une encyclopédie des odeurs. Cette encyclopédie, forcément une première du genre, elle serait censée permettre donc aux internautes de découvrir comment les odeurs... Alors on imagine que d'abord il y a cette composante de en ligne, mais s'il y a des expositions, je pense qu'il y aura quand même une notion où on pourra peut-être se promener dans des reconstitutions avec peut-être l'odeur en question de l'époque. Mais normalement, en tout cas si c'est sur Internet, ça permettrait aux internautes de découvrir comment les odeurs ont façonné nos communautés et nos traditions. C'est ce qu'explique donc le communiqué de l'université Anglia Ruskin de Cambridge. C'est une en fait des 6 structures européennes qui sont impliquées dans le projet qui s'appelle Odeuropa. Alors, comment replacer dans leur contexte historique les odeurs qui existent toujours ? Par exemple, celle du romarin, en fait, elle était très prisée au XVIe et au XVIIIe siècle car on lui attribuait le pouvoir d'éloigner la peste. Donc nous maintenant, le romarin, on l'a parfois en cuisine pour faire quelques assaisonnements. Mais à l'époque, on imagine que c'était peut-être une odeur beaucoup plus prégnante. Donc les chimistes, les parfumeurs du projet ont été chargés du coup de recréer, grâce à des indications trouvées par une intelligence artificielle dans des textes historiques ou des peintures. Donc il y a eu visiblement tout un travail de faire ressurgir comme ça tous ces éléments liés aux odeurs pour du coup avoir les odeurs caractéristiques de certaines époques, comme le tabac ou de grands parfums historiques, mais aussi de certains espaces comme la puanteur des villes provoquée par la révolution industrielle. Oui, alors par contre, on imagine que ça sentait pas forcément toujours très bon à toutes les époques. Alors le professeur William Tullett, qui est historien à l'université justement Anglia Ruskin, est très enthousiaste et il a dit « Un de nos chercheurs travaille sur des peintures et on va essayer de recréer l'odeur de la bataille de Waterloo. » Je ne sais pas.
Non, je ne vois pas sur quoi ils peuvent se baser.
Eh bien, certainement...
Qu'est-ce que tu as sur les peintures qui représentent la bataille de Waterloo ?
Eh bien, peut-être...
Des chevaux et c'est tout.
Oui, après, peut-être au niveau des armes utilisées, la poudre, je ne sais pas. Il y a certainement plein d'indications, en fait, que là, on n'imagine pas, mais qui, pour des spécialistes, d'accord, permettent d'imaginer un petit peu tout l'environnement olfactif de l'époque. Alors, les échantillons d'odeurs recréés, eh bien, ils voyageront à partir de l'année 2021. Apparemment, ça aurait démarré, à voir avec tout ce qui s'est passé, si ça n'a pas été décalé, dans différents musées européens pour plonger les visiteurs olfactivement dans le passé. Donc, l'historien spécialiste des odeurs que j'évoquais précédemment, il nous explique que parmi les événements à venir, il y aura des collaborations avec des sites qui font des reconstitutions historiques ou des musées où le public devra associer les odeurs avec le bon tableau. Par exemple, voilà, la bataille de Waterloo, il y aurait l'odeur à côté du tableau. Je trouve ça assez...
Ah non, mais c'est un côté immersif vraiment intéressant.
Tout à fait. Alors, ce que le chercheur nous dit également, c'est que ce qui intéresse les gens, c'est de savoir comment c'était de vivre dans le passé, comment ça se sentait, et de donner justement aux gens une expérience plus intime du passé, et aussi de les encourager à penser aux odeurs autour d'eux aujourd'hui. Et oui, parce que justement, on en parle beaucoup hein, de l'odorat, là, en cette période de Covid, où, alors un peu moins maintenant, mais où il y a eu quand même eu de nombreuses anosmies, parfois définitives d'ailleurs, causées par donc, le Covid-19. Et ça remet un petit peu comme ça l'importance de l'odorat sur le devant de la scène, puisque quand on s'en retrouve privé, c'est là où on se rend compte en fait que c'était primordial et que ça nous aidait quand même pas mal dans notre vie de tous les jours à identifier finalement beaucoup de choses. Donc le projet Odoropa, il a été subventionné à hauteur de 2,8 millions d'euros et il permettra ainsi d'interroger le statut des odeurs. Est-ce que les odeurs doivent être considérées comme appartenant à notre patrimoine culturel? Et si oui, est-ce que nous devons les préserver pour le futur? Est-ce que pareil, on constitue des banques d'odeurs? Est-ce que c'est important de se souvenir de comment ça se sentait à telle ou telle époque? Alors le même chercheur, là, William Tellett, il sera aussi chargé de développer un nez d'ordinateur qui serait capable de retracer des odeurs et des expériences olfactives présentes dans des textes numérisés en plusieurs langues. Alors là, j'ai un petit peu du mal à me représenter ce que ça va donner, mais on imagine donc que l'ordinateur serait capable, à partir de textes numérisés, de retrouver les odeurs et à quelle expérience olfactive ça correspond. D'accord. Donc tout ça pour construire une vaste consolidation de différentes données olfactives. À voir ce que ça donne. Et pour donner un exemple qui cette fois-ci est dans un tout autre registre hein, sensoriel, la musicologue Mylène Pardoen, elle avait reconstitué en fait l'ambiance sonore du quartier du Grand Châtelet à Paris au XVIIIe siècle, dans un projet justement qui associait des historiens et des spécialistes de la 3D. Alors ça, je ne l'ai pas retrouvé, mais c'est vrai que je serais curieuse de savoir ce que ça donnait. J'imagine que c'était très bruyant, même si Châtelet, encore aujourd'hui à Paris, ça est assez bruyant. Je pense quand même que c'est intéressant de voir ce que ça donne. Ça plus l'odeur, et voilà, on fait un voyage plus de 2 siècles en arrière.
Alors, autant j'arrive à comprendre qu'on peut essayer de retrouver fidèlement l'ambiance sonore, j'ai plus de mal
sur l'ambiance olfactive.
Ouais. Je prends l'exemple du romarin que tu évoquais. Mm-hmm. On n'est peut-être pas nécessairement certain que l'odeur du romarin au XVIIIe siècle est le même que maintenant. Je ne sais pas, en fait. Je pose cette question. Mais je ne sais pas, toi, si on a assez de données d'un point de vue olfactif sur ce qui existait à l'époque. Et là encore, tu reprends l'idée de Waterloo. Oui, effectivement, il y a toute l'idée de la poudre, tout ça. Mais
il y a peut-être des écrits. Alors là, ils en parlaient.
Je sais pas. C'est une vraie question. C'est assez intéressant, ce sujet-là, oui. En fait.
Certainement qu'il s'appuie aussi, de ce que je comprends, pas que sur le visuel de la peinture, parce que visiblement, c'était surtout pour après présenter la peinture et l'odeur associée. Mais peut-être qu'au travers des écrits de l'époque, etc., au travers des reconstitutions, on a aussi plein d'éléments qui nous permettent de donner une idée de l'odeur en fait, qu'il y avait. Je pense qu'on a quand même plein d'indications et ce qui me fait dire que c'est possible pour des spécialistes, c'est que déjà on le voit quand on voyage un petit peu en fonction des pays où il n'y a pas du tout la même alimentation, pas du tout les mêmes produits, etc. Ça donne des odeurs très différentes dans les rues. Donc on est capable comme ça de différencier ce genre de choses et donc je pense que, en tout cas sur des époques type 18e, 19e siècle, il y a quand même pas mal d'écrits qui existent pour donner une idée de comment ça se sentait. Ouais. Ouais, ouais.
Et une autre chose, tu évoquais, c'est vrai que ça peut être intéressant de faire une banque de données entre guillemets olfactive, oui, pour les générations futures. Comment ça se construit? C'est-à-dire que l'odeur, c'est une molécule chimique d'une façon générale qui va se dénaturer fatalement. Alors comment conserves dans des bonnes conditions? Enfin, je ne sais pas, toi, c'est des vrais sujets qui, ouais, méritent réflexion.
Et est-ce qu'en fait, on la conserve vraiment? Je veux dire, justement, peut-être qu'il ne la conserve pas vraiment physiquement, mais qu'on conserverait les données qui permettent de la reproduire? Parce que
je
là, on parle justement d'expériences olfactives qu'un ordinateur serait capable donc de retrouver à partir de textes numérisés. Mais donc voilà, jusque-là, on ne reconstitue pas vraiment l'odeur. On arrive juste à retrouver dans différents textes et d'associer, enfin voilà, numériquement déjà, d'avoir un pool d'expériences olfactives qui soient listées. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je comprends dans la fin de l'expérience. Maintenant, est-ce qu'à partir de là, on est capable de les reconstituer, j'allais dire, vraiment physiquement parlant? Très bonne question.
Physiquement et fidèlement, je ne sais
et
pas.
Très, oui, vrai, voilà, tout à fait.
Je trouve que c'est un domaine qui est difficile à exploiter, en fait. C'est ça que je veux dire.
Tout à fait. Mais je me renseignerai là pour savoir si justement les fameuses expositions qui sont évoquées en fait dans l'article, est-ce que là elles sont en train d'être mises en place ? Est-ce qu'elles ont lieu ou est-ce qu'elles auront lieu là prochainement ? Ce serait intéressant de... Là, on aura certainement plus d'éléments, en fait, sur l'aboutissement de ces premiers travaux.
Parce que d'un point de vue du son, on peut retrouver... On a encore des matériaux qu'on a conservés, des armes ou autres. Donc, on est capable de reproduire le son de ces matériaux-là et donc d'avoir une ambiance sonore générale. Au niveau des odeurs, je suis très curieux de savoir comment ils se basent. C'est vrai que ça peut être intéressant à voir, bien évidemment, parce qu'il y a aussi une notion de proportion derrière de chaque arôme, entre guillemets, enfin de chaque odeur, pour
oui,
en faire un package global, bien évidemment.
Ben, c'est pour ça qu'il y a vraiment des chimistes et des parfumeurs qui sont impliqués. Et je sais déjà que, par exemple, pour tout ce qui est l'histoire des parfums, il y a quand même beaucoup de connaissances sur comment étaient les parfums avant, quelles étaient les odeurs, et on sait que c'était très différent de notre époque. Donc là, il y a tout un historique qui a été conservé. Donc j'imagine qu'on s'appuie là-dessus. Et qu'avec plein d'autres connaissances, on peut arriver à recréer des choses. C'est que là, c'est un domaine qui nous semble très loin de ce que nous, on connaît. Mais peut-être expérience à vivre quand ce sera possible pour le visiteur de musée que nous serons à ce moment-là.
Oui, parce qu'à mon avis, si on veut pleinement profiter, il ne faudrait pas trop qu'on ait les masques. Hein, parce que
ah ben oui, là, c'est vrai.
Dommage. Donc fatalement,
tout à fait.
C'est certain. Et puis il y a aussi toute une notion de ce que l'on aime comme odeur aujourd'hui n'était pas nécessairement ce qu'on aimait
ah,
et
oui.
Inversement.
Là,
donc,
je pense qu'il y aura des surprises.
Il y aura sûrement des surprises aussi, en fait.
Ouais.
Donc ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. C'est un sujet vraiment intéressant qui ouvre plein de perspectives de cet article assez ancien, mais effectivement, encore d'actualité, on essaiera de suivre ça. Vous écoutez Graphite, on écoute un petit titre, et puis on se retrouve ensuite. Je vous ramène dans l'espace, parce que, je sais pas, il y avait longtemps qu'on n'était pas retourné. Retournons dans l'espace juste après Blackfeet Revolution sur l'antenne de Graphite. Like a frog on fire, sometimes raging.
sometimes a raging wound I feel like fog on fire. Sometimes a glass of food and I feel like fog on fire. Sometimes it falls on me and I feel like fog on fire. Sometimes when I'm not strong, at least speed up fall. It's better than never. Like fog on fire. Like fog on fire. Sometimes it falls on me and I feel like fog on fire. Sometimes when I'm not strong.
Graphite 94.9 FM.
Vous écoutez Graphite Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique et tous les mardis entre 10h et 11h bien sûr pour la rediffusion. Je vous ai dit qu'on partait dans l'espace avec la Chine bien sûr qui affiche des ambitions spatiales toujours plus dévorantes, on le sait, selon des documents qui ont été publiés par le département des mathématiques de la Fondation nationale des sciences naturelles de Chine. Donc documents officiels. Pékin envisage de construire des bases spatiales de plus d'un kilomètre de long décrites comme un équipement aérospatial stratégique majeur pour l'utilisation à venir des ressources spatiales, pour l'exploration des mystères de l'univers et pour la vie à long terme en orbite. On est bien dans des... Comment dire, dans une, pardon, un vaisseau spatial de plus d'un kilomètre de long. Je pense qu'on ne se rend même pas compte de ce que ça veut dire.
Oui.
D'autant que si on veut avoir une espèce de comparaison, la station spatiale internationale actuelle ne mesure que 110 mètres de long. Alors
oui,
qu'on a déjà l'impression qu'elle est grande. Tu vois,
c'est vrai,
tu
quand on voit les images, quand on voit les vidéos des astronautes à l'intérieur, oui, on a l'impression que c'est plus grand que ça.
Eh bien là, c'est 10 fois plus. Et ça a coûté la bagatelle de 150 milliards de dollars à la station spatiale internationale pour 100 mètres carrés. T'imagines, en fait, du coup, si on arrive à avoir un vaisseau spatial de plus d'un kilomètre de long, le coût qu'il y a derrière, on ne s'en rend même pas compte.
Ouais.
Alors, attention, c'est un projet encore assez vague, bien évidemment. Un projet qui pourrait remplir plusieurs fonctions comme celle de servir de télescope spatial, d'héberger des missions habitées ou encore de faire office de gigantesque centrale solaire où l'énergie serait envoyée sur Terre via des faisceaux micro-ondes. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Une technologie qui a déjà été testée par l'armée américaine et par la Chine. Et on ne peut que s'interroger sur la faisabilité d'un tel mastodonte. Impossible, bien évidemment, d'envoyer une telle masse en une seule fois, bien évidemment. Parce que comment tu peux envoyer en une seule fois un truc qui fait un kilomètre de long ?
Mais c'est
impossible.
Je ne sais pas déjà, oui, bien
sûr. Eh bien, ça n'est pas possible. Et même les Chinois ne savent pas faire. Et donc, on va utiliser une fusée, la Falcon Heavy, l'une des plus puissantes à ce jour. Et cette fusée, elle ne peut... C'est la plus puissante, elle ne peut emporter que 63 tonnes de matériel, ce qui est en soi assez conséquent, mais on en est quand même très très loin parce que la station spatiale... Ah, pardon, excusez-moi, je bafouille énormément. La station spatiale internationale pèse environ 2800 tonnes.
C'est déjà
donc,
énorme. Oui.
Tu ne peux envoyer que 63 tonnes à la fois. Et tu en es à 2800 tonnes. Comment tu fais ? Ben, tu fais plusieurs allers-retours, en fait, disons que ça a à faire, tu m'étonnes. Et on sait très bien que la Station Spatiale Internationale a été assemblée sur plusieurs années, bien évidemment. Alors, il est ingénieur à l'université de Cornell, il s'appelle Mason Peck. Il considère toutefois que ce projet est parfaitement réaliste. Je ne vois pas d'obstacles insurmontables, mais plutôt des problèmes d'échelle, nous dit-on. Ben oui, effectivement, c'est ce qu'on essaye de vous expliquer dans cette émission. Tout dépend, en fait, de l'usage que sera fait de cette structure. Si nous parlons de quelque chose qui est simplement très long et pas aussi lourd, c'est envisageable. Il y a de nouvelles techniques de construction qui pourraient également réduire le coût d'expédition. Et donc la NASA planche, par exemple, sur l'assemblage en orbite d'un télescope spatial géant où des miroirs seraient imprimés directement dans l'espace grâce à une technologie qui va permettre justement de pouvoir le faire, d'imprimer, de solidifier des couches résistantes dans l'espace. C'est-à-dire qu'on va envoyer dans l'espace la technologie pour pouvoir construire directement sur place. C'est ça qui peut être intéressant. Les différents miroirs pourraient ensuite être assemblés directement en orbite grâce à des petits robots. Donc tout ça se ferait tout seul directement dans l'espace. Il serait même possible de s'approvisionner en matière première sur la Lune, bien que cela nécessite d'abord de bâtir, bien sûr, une base lunaire qui soit dédiée, ce qui n'est pas pour l'instant envisageable, en tout cas à court terme, bien évidemment. Alors, la construction du vaisseau n'est cependant pas le plus gros obstacle auquel devront faire face les Chinois, ce que Mason Peck explique. Chaque fois qu'un engin spatial est soumis à des forces, que ce soit en manœuvrant ou en s'amarrant à un autre véhicule, le mouvement confère de l'énergie à la structure qui le fait vibrer et se plier. Et donc avec un vaisseau qui soit aussi grand, le mouvement confère de l'énergie à la structure et du coup, ça va avoir des vibrations qui vont prendre beaucoup plus de temps à s'atténuer. Il est donc probable qu'il aura besoin d'amortisseurs ou d'autres moyens de contrôle pour essayer d'atténuer ces vibrations. Et donc, du coup, il va falloir essayer de gérer cet aspect-là que quelque part, on ne maîtrise pas et que du coup, on n'a pas nécessairement prévu au départ. C'est-à-dire construire dans l'espace quelque chose de grande ampleur et justement de pouvoir avoir la possibilité de gérer toutes ces vibrations, c'est quelque chose qu'on arrivera à faire qu'à partir du moment où on aura les outils possibles pour le faire, ce qui nécessite aussi, et c'est pas négligeable, une importante consommation de carburant. Et évidemment, plus la structure est lourde, plus il faudra de carburant pour pouvoir y arriver. En tout cas, la question majeure reste bien sûr celle du coût. Il y a un budget alloué qui s'élève à 2 millions d'euros pour 5 projets au total. On est bien d'accord, c'est totalement ridicule. Hein. 2 millions d'euros, c'est ridicule, ça ne sert à rien, ça paye à peine la communication. Je vous ai dit tout à l'heure que ça coûtait 150 milliards de dollars pour faire une station spatiale internationale. Et l'entretien ensuite, c'est 3 milliards de dollars par an. Donc tu m'étonnes que c'est un budget assez conséquent. Et donc un vaisseau d'un kilomètre de long serait ainsi peut-être faisable technologiquement et en théorie, mais difficilement réalisable concrètement, nous dit-on, bien sûr. En tout cas, cette Chine qui veut construire un vaisseau spatial de plus d'un kilomètre de long, quelque part, on n'est pas certain qu'elle y réussira. Et deuxièmement, on n'est même pas en mesure de se dire s'il y a une utilité pour pouvoir le faire, oui. Si ce n'est évidemment, et là on est dans un contexte différent, qui est un contexte purement de communication. C'est-à-dire que, je vais être un petit peu trivial, mais je veux montrer que la mienne est plus grosse que la tienne. Je parle bien sûr de la Station Spatiale Internationale, évidemment, mais c'est un peu cette idée-là. Aussi, on sait très bien qu'il y a une bataille en ce moment entre les grandes puissances, et que du coup, la Chine, on le sait, ça fait déjà un bon bout de temps qu'on vous le dit dans cette émission, a sa place dans cette course, et là, elle est en train de prendre un petit peu la tête, à mon avis. En tout cas, d'un point de vue communication, elle est très habile, je trouve, et elle arrive à faire passer des messages totalement intéressants. Par contre, après, est-ce qu'il y a une utilité d'avoir un vaisseau d'un kilomètre de long? À part dans Star Trek, je ne vois pas à quoi ça peut servir.
Oui, à part pour continuer d'accumuler un petit peu les déchets spatiaux, parce que je crois qu'il y en a déjà pas mal avec les satellites, etc., etc. Ça commence à être un petit peu plein là-haut. Donc tout dépend où on le met, ce vaisseau. Mais on trouvera la place.
Ça, on trouvera la place, Carole. Ça, je n'en ai aucun doute, bien évidemment. Mais est-ce que c'est utile?
Ça, j'en suis pas sûre.
Je pense que, effectivement, la course de l'espace va coûter cher. Mais il y a peut-être de l'argent à dépenser dans cette course à l'espace autrement que dans ce vaisseau spatial d'un kilomètre de long, à mon avis.
Oui.
La colonisation de certaines planètes, ça, c'est un défi extraordinaire. Enfin, derrière, il y a quand même des coûts associés qu'il faudra aussi fournir. La Chine, elle n'a pas plus d'argent que le reste. Enfin, quelque part, je dirais, pourquoi la Chine aurait plus d'argent dans ce domaine-là?
Elle en a quand même. En tout cas, là,
elle en a bien sûr. Elle le montre.
Elle
le montre. Elle le dit. Après, derrière, on verra. Mais donc, il y a aussi derrière, et c'est ça qui est intéressant à suivre, ce côté communication un petit peu. Voilà, c'est.
Ça serait intéressant.
Chacun
de
ses followers, quelque part, pour savoir. C'est ça. Bon, on vit dans une société du paraître. Donc, effectivement, on est toujours dans ce domaine-là.
Eh bien, très intéressant.
Mais ça me semblait intéressant d'évoquer ça, bien évidemment, et de prendre toujours, comme je vous le disais en début d'année, un peu de recul avec tout ça et de voir si, effectivement, ça ne serait pas nécessairement un peu de l'esbrouf.
On verra. On en reparlera dans l'émission si jamais on a la fin de l'histoire. Moi, je vais revenir à quelque chose de plus concret, mais j'allais dire qu'il y a aussi de la recherche là, qui va bientôt nous concerner dans le futur. En fait, il s'agit d'une étude qui a été menée par donc, des chercheurs, d'une part de Linköping en Suède et de l'université d'Okinawa au Japon, pour créer en fait, des micro-robots capable de reproduire le phénomène de durcissement des os. C'est une étude qui a été relayée dans Science et Avenir au mois de janvier, donc en ce début d'année. Ces micro-robots, en fait, ils peuvent ainsi prendre une grande diversité de formes avant de durcir. Ils auraient des propriétés donc uniques qui pourraient avoir de nombreuses applications dans le domaine médical, on s'en doute, notamment pour guérir des fractures complexes. En fait, alors comment du coup ça se passe? Comment ont travaillé ces chercheurs? Eh bien, ils ont travaillé en associant des matériaux biologiques et synthétiques et ils ont créé un matériel reproduisant le phénomène de durcissement des os du crâne après la naissance. Ces chercheurs, ils ont ainsi fabriqué un micro-robot bio-inspiré pouvant revêtir différentes formes avant de se minéraliser et se stabiliser dans sa forme finale. Une avancée qui pourrait être appliquée dans le domaine médical pour permettre de guérir certaines fractures, donc comme je le disais précédemment. Alors, la naissance de ce matériel est fondamentalement liée aux os qui permettent justement notre naissance. C'est-à-dire que ce sont les fontanelles, des espaces membraneux entre les os du crâne qui se déforment à l'aube de notre vie et qui se durcissent durant les années qui suivent. Et c'est ça qui a inspiré finalement cette création. Tout comme nos vies qui ont commencé grâce à une rencontre, eh bien la fabrication de ces micro-robots hybrides, elle a commencé par la rencontre entre des chercheurs donc suédois qui étaient spécialisés dans les matériaux et des scientifiques japonais menant une étude sur le durcissement osseux. Les deux équipes ont marié des matériaux pouvant changer de forme via des influx électriques et des cellules ayant pour propriété de se minéraliser au bout d'un certain temps d'incubation. Les chercheurs de l'université de Linköping ont apporté une combinaison entre un polymère, le polypyrrole, et un gel composé d'alginate. Grâce à eux, lorsqu'un courant est appliqué, le micro-robot se plie. Qui plus est, ils peuvent en changer la direction en traçant des lignes dans le gel. C'est comme ça que les chercheurs, en fait, ont pu tracer une ligne perpendiculaire, le micro-robot formant comme ça un demi-cercle, alors que des diagonales, elles entraîneront une forme hélicoïdale. Donc bon, voilà, on peut faire se déplacer le micro-robot déjà de différentes façons. Les chercheurs de l'université d'Okinawa, quant à eux, ils ont apporté la capacité de durcissement du robot via ce qu'on appelle les PMNF. C'est des nanofragments de la membrane plasmique des fontanelles, hein, ces fameux espaces membraneux entre les os, qui permettent aux cellules de se minéraliser. Donc en plongeant les micro-robots ayant intégré des PMNF dans des cellules, dans des cultures cellulaires ressemblant aux conditions physiologiques du corps humain, les chercheurs ont constaté que les micro-robots se sont minéralisés complètement au bout de 5 jours d'incubation et ont ainsi pu prendre une forme définitive. C'est quand même très rapide et assez incroyable. Évidemment, on se doute que ça pourrait avoir une application médicale et que c'est déjà envisagé, puisque ces micro-robots, ils pourraient potentiellement servir dans le cadre du traitement de fractures complexes en permettant aux os d'avoir une base stable ou se reconstruire. Durant leurs expériences, les chercheurs ont montré que les matériaux composant les micro-robots pouvaient entourer un os de poulet et se développer avec lui. En contrôlant la façon dont tourne le matériel, nous pouvons faire bouger le micro-robot de différentes manières et aussi maîtriser le déploiement du matériel dans l'os brisé. Nous pouvons intégrer ces mouvements dans la structure du matériel et éviter de faire des programmes complexes pour piloter ces robots. C'est Edwin Jaeger, professeur associé au département de physique, chimie et biologie de l'université de Linköping, qui nous explique cela. Et en fait, bien sûr, on peut imaginer avoir un jour une application réelle dans le domaine médical. Mais pour ça, il faudra quand même tester la compatibilité des micro-robots avec des cellules vivantes. Donc ça, c'est la prochaine étape. On imagine, n'empêche déjà que c'est bien avancé et que c'est assez incroyable. Et on le sait, hein, c'est compliqué les fractures complexes à guérir. Donc ça serait assez incroyable de pouvoir comme ça, en s'inspirant. Parce qu'en fait, dans cette étude-là, on en parlait il y a quelques semaines dans l'émission, sur du biomimétisme également, puisqu'ils se sont inspirés de ce qu'on trouve au départ dans le vivant, en fait, pour créer cette technologie. Mais on pourrait avoir des résultats extraordinaires. Et on imagine déjà les applications chez les sportifs, chez aussi, voilà, hein, n'importe qui se serait fracturé en 1000 morceaux certains endroits du corps. Donc voilà. Et moi, j'aimais bien aussi ce parallèle avec le biomimétisme, justement, puisqu'on le voit. On avait dit que peut-être un jour, on ferait une thématique, mais ça prend de plus en plus de place, en fait, au niveau de l'innovation qu'on observe en ingénierie. Et j'avais envie de donner, en fait, un ou deux exemples. qui sont très connus pour illustrer un petit peu ce que c'est, hein. Notamment le fameux train à grande vitesse du Japon, le Shinkansen. En fait, il a été créé en se basant sur l'aérodynamisme du bec du Martin Pêcheur. Ça, c'est l'exemple le plus connu. Et on a aussi celui très connu, puisque c'est le fondateur, quelque part, du biomimétisme, c'est Léonard de Vinci, hein, qui, lui, du coup, notamment, il a créé des ailes à échelle humaine en imitant celles des chauves-souris, et aussi voilà, tout un tas de machines volantes, finalement, en s'inspirant de la nature.
C'est totalement fascinant cette histoire de micro-robots parce que ça commence à sortir dans l'actualité en fait. C'est des sujets qui commencent à venir avec cette idée aussi, donc là tu parles de fracture, l'idée aussi d'apporter au bon endroit le médicament pour la bonne cellule également. Il y a toutes ces choses-là qui existent.
Exactement.
Également. Et j'ai vu un article, alors je ne l'ai pas sous les yeux donc je vous le dis de mémoire, je crois que c'était dans Challenge il y a 15 jours il me semble, où on parle aussi de ce genre de micro-robot qu'on va envelopper d'une substance, je ne sais plus laquelle, qui va cibler une cellule particulière. Je crois que c'est des cellules cancéreuses, mais je mets beaucoup de recul parce que je vous le dis de mémoire. Mais ce que je veux dire, c'est que la cellule qu'on souhaitait cibler est plus acide que les autres cellules. Et donc, quand ce robot arrive recouvert de cette couche protectrice, cette couche va se désagréger beaucoup plus facilement parce qu'elle sera dans un milieu acide par rapport à une autre cellule. Donc, le médicament va être libéré au bon endroit, toi, quelque part. C'est toujours cette idée. Alors, on est évidemment encore dans le prototype, même quelque part dans l'idée, plus que dans l'application concrète. Mais ce que tu évoques là, c'est une avancée géniale, en fait. Et ça va dans cette voie-là, assez récente, justement. C'est ça qui est intéressant, je trouve. Et on est impatient de voir ce que cela va donner.
Ce que ça va donner et quand ce sera réellement, quelque part, utilisé pour toutes les applications médicales potentielles.
Bien évidemment, parce que du coup, à partir... La grande difficulté au niveau de la médecine, c'est de pouvoir agir au bon endroit, quelque part. Et les effets secondaires, c'est malheureusement le cas, parce que ce sont les autres cellules qui sont confrontés à un médicament qu'elles ne devraient pas avoir. Sauf que là, on agit sur tout le corps. Et du coup, si on arrive à cibler, ça serait quand même beaucoup plus simple. C'est ce qu'on essaye de faire. Donc, il y a plein de choses qui se mettent en place. C'est très récent, ça. C'est les derniers mois où on commence à voir des articles comme ça qui montrent que c'est une voie véritablement intéressante et qui sera une révolution dans peu de temps, je pense. Je pense qu'on va très très vite là et qu'on va trouver des choses formidables.
Je pense qu'on va en reparler très bientôt.
Je pense aussi et c'est totalement intéressant et fascinant. Et c'est bien, un peu d'espoir dans cette émission. On écoute un peu de musique également et on se retrouve pour la dernière partie de cette émission. À tout de suite.
Oh God.
Graphite, également à l'écoute sur www.graphite.net.
Et c'était Babe Haven avec The Horse sur l'antenne The Hours. Pardon, comment on dit les heures? The Horse?
The Hours.
Qu'est-ce que je peine. C'est compliqué. Sur l'antenne de Graphite, vous écoutez comme tous les samedis entre 12h et 13h. Biotil, l'émission d'actualité scientifique sur le 94.9 et graphite.net et aussi la rediffusion tous les mardis matin à 10h, entre 10h et 11h. Très rapidement, je vous parlais de la Chine tout à l'heure qui veut faire un vaisseau spatial de plus d'un kilomètre de long. C'était un petit peu utopique. Par contre, il y a du concret. C'est que la Chine a bien confirmé la présence d'eau sur la Lune. C'est-à-dire qu'avant, on avait des confirmations à partir d'échantillons qu'on avait récupérés ou d'observations d'une façon orbitale autour de la Lune. Mais comme la Chine s'est posée sur la Lune grâce à son atterrisseur, ils ont pu vérifier la présence d'eau sur la Lune. C'est totalement fascinant. Et c'est là encore les Chinois. Enfin, je veux dire, quelque part, on voit très bien la place des Chinois dans cette course spatiale. Autre sujet, c'est une simple caméra qui pourrait suffire à surveiller l'état de notre cœur. C'est l'annonce d'une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle et la santé qui s'appelle Binai. Cette firme a ajouté également la mesure de la pression artérielle à son application qui fonctionne sur ordinateur ou sur smartphone. Ça y est, on y arrive. C'est un système qui utilise la photoplétismographie.
C'est-à-dire,
alors qu'est-ce que c'est? Ben oui, effectivement, d'ailleurs j'ai réussi à le dire en une seule fois et je suis très fier de moi.
Bravo, oui.
Ça mesure la lumière reflétée par la peau pour évaluer les variations de volume sanguin. Et donc, on est dans un système d'intelligence artificielle qui va analyser des images en provenance de la caméra, qui va donc apprendre d'une façon continuelle et qui va permettre de déterminer la tension artérielle.
Ah.
C'est quand même fascinant. En même temps, la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène, la fréquence respiratoire et bien d'autres. 1 minute, nous dit-on, suffit pour obtenir les mesures. Alors, ce qui est intéressant dans cette avancée, c'est que ça va aider dans le suivi des patients avec, bien sûr, la généralisation de la télémédecine. Et il y a de plus en plus d'articles dans ce domaine de la télémédecine. Il y a beaucoup de choses qui existent, bien évidemment. Alors, le système ne dispose aujourd'hui d'aucune autorisation médicale. Et donc, pour l'instant, nous dit-on, ça doit être considéré comme, plutôt comme une application de bien-être. Mais il y a des études de validation interne qui ont été effectuées sur environ 300 personnes, ce qui n'est pas énorme, il faut le dire. Les données n'ont pas été publiées. Donc, pour l'instant, on est peut-être dans une phase de calibrage. Il n'empêche que la firme compte lancer une nouvelle étude plus extensive dans les prochains jours pour obtenir quoi ? Obtenir l'autorisation de la FDA, la Food and Drug Administration aux États-Unis. Je crois qu'on en parle toutes les semaines de cette administration américaine.
C'est ce que j'allais dire, là, elle, c'était à la,
ah, mais
à la
de toute façon, c'est le sésame, en fait. C'est ça qu'ils veulent. L'idée, donc, c'est que cette application puisse avoir une autorisation légale et puisse être reconnue comme un véritable outil de télémédecine. Pour l'instant, ce n'est pas une application directement disponible au grand public, mais ça le sera bientôt, bien évidemment. Alors, ce qui est intéressant dans cette... Là, on est dans un exercice pur de communication, en clair. C'est la firme qui fait une pub sur ce domaine-là. Il ne faut pas se leurrer. Techniquement, on va y arriver. Ça, c'est certain. C'est-à-dire qu'on va avoir les outils qui vont nous permettre d'avoir la possibilité de pouvoir obtenir toutes nos données biométriques d'une façon instantanée grâce à des outils que l'on va pouvoir avoir à la maison. Mais là encore, on est dans un domaine assez particulier. La médecine, ce n'est pas uniquement d'avoir une donnée d'information, c'est de pouvoir poser un diagnostic et apporter ensuite des solutions, des thérapies, des médicaments, enfin en tout cas un plan d'action par la suite. Et j'ai bien peur en fait qu'on squeeze un petit peu tout cela et que l'on se automédicamente. Alors des fois c'est bien, des fois il faut faire attention d'avoir un équilibre assez subtil à gérer bien évidemment, mais la télémédecine, il y a des domaines qui sont en plein essor et la télémédecine est l'un de ces domaines-là parce que technologiquement, on commence à concevoir les outils qui vont permettre de pouvoir le faire et des outils fiables. Mais là encore, on est toujours dans un domaine qui est que ça n'est pas que ça, la médecine. Enfin, je crois, il me semble. Oui, je n'ai pas fait d'études de médecine, mais je suppose que ce n'est pas que ça.
S'il y a
des médecins qui nous écoutent et qui nous disent bah, « ça y est, je colle mon téléphone directement sur la peau et puis ça va me dire ma tension artérielle, bah, je sais que je suis malade ou je sais que ça va bien », c'est pas que ça, en fait.
Non. Et c'est vrai
que malheureusement, c'est une communication qui est orientée sur ça.
Oui, puis à l'époque où on est tous devenus épidémiologistes, est-ce qu'on va devenir tous médecins, nos propres médecins? C'est peut-être une dérive à ne pas souhaiter.
C'est un beau sujet, effectivement. C'est une dérive. T'as entièrement, c'est le mot juste, c'est une dérive qu'il va falloir maîtriser, bien évidemment. On serait vigilant. Alors, terminons avec des choses.
Je propose en effet de terminer avec une étude sympathique sur un sujet. Alors au début, quand j'ai vu ça, je me suis dit « Burk, de quoi il s'agit ?» Tu vas voir, puisqu'en fait, il s'agit de ce que représente pour les bébés le fait de partager sa salive.
Qu'est-ce que c'est encore? Mais qu'est-ce qu'il y a, Carole? Tu veux nous parler de choses intimes, peut-être?
Non, pas du tout. C'est une étude très sérieuse, relayée par Science et Avenir.
Oh, bah si c'est Science et Avenir, alors c'est sérieux. Voilà.
Récemment, en fait, on en sait un peu plus sur la façon dont les bébés identifient les personnes qui leur sont proches. C'est une récente étude qui a mis en évidence le rôle de la salive, qui, mais on peut l'imaginer, est un élément crucial pour les tout-petits. Hein, ils ont beaucoup de bave, de salive, donc on peut se douter que ça a évidemment pas mal de rôle. Alors, est-ce qu'on a recours au partage de nourriture, s'essuyer le coin de la bouche, s'embrasser ça, en fait, on ne le fait pas vraiment avec nos voisins de palier, nos collègues, mais plutôt avec, justement...
Le fais pas avec tes collègues.
La majorité, normalement, des gens, mais c'est vrai que ça peut dépendre. Là, je m'emballe peut-être un peu. Et en fait, donc, c'est une étude qui a été publiée dans le très sérieux magazine Science, qui relate des travaux qui ont permis de mettre en évidence que les bébés identifient les relations proches comme celles avec lesquelles, en fait, ils partagent la salive. Hein, donc tous les bisous bien baveux, les essuyages de salive, c'est des comportements en fait que même les tout-petits identifient comme des preuves d'amour. Oui, on va jusque-là dans l'article. La psychologie développementale, elle a montré que les enfants observent les comportements autour d'eux pour interpréter les relations et les catégoriser. Donc de précédents travaux ont par exemple mis en avant qu'en observant des personnes qui se parlent et qui se regardent, les bébés attendent d'eux qu'ils coopèrent dans le futur. Donc, c'est passionnant, tout ce qu'on arrive à déduire. Et ces bébés, ils estiment aussi que les personnes qui effectuent les mêmes mouvements en étant synchrones sont des amis. Très observateur, attention, si vous avez des bébés dans votre entourage, en fait, ils voient tout. Alors cette fois, l'étude, elle ne porte pas sur des relations d'amitié, mais sur des relations plus étroites, comme celles que les bébés peuvent avoir avec leurs parents. Pour cela, l'équipe issue de l'université d'Harvard et du MIT, ils ont procédé donc à plusieurs expériences liées à la salive. Ashley G. Thomas, qui est chercheuse dans le département de psychologie à l'université d'Harvard, elle explique « Dans notre étude, nous n'avons pas évalué directement comment les bébés comprennent les baisers ou le fait d'essuyer de la bave, mais plutôt leurs interprétations d'activités qu'ont les adultes entre eux. Alors la première expérience qui portait sur des enfants de 5 à 7 ans, elle a montré que ces enfants, justement, ils estiment que les personnes partageant leur couvert ou léchant la même glace font partie de la même famille. Je pense que les protocoles expérimentaux, qui ne sont pas détaillés dans l'article évidemment, étaient assez passionnants.
Tu m'étonnes.
Une autre expérience, cette fois-ci, portait sur des enfants de 8,5 à 10 mois et de 16 à 18 mois. Donc là, c'est vraiment des bébés. Hein. Les deux groupes de bébés ont d'abord vu des personnes avoir des activités qui impliquent d'échanger de la salive. Qu'est-ce qu'on a montré à des bébés? Non. On leur a montré comme se partager un morceau d'orange. Est-ce qu'il y en a un qui le lèche et qui le passe à l'autre? Je ne sais pas. Pareil, hein, c'est des études, j'imagine, qui ont été faites hors Covid ou je ne sais pas,
parallèle. C'est pas du tout Covid compatible, cette expérience-là.
Pas du tout. Ensuite, lorsque des deux personnes se trouvaient en... Voilà. Donc les deux personnes, ils les observaient, les bébés, se partager des morceaux d'orange. Et donc lorsqu'une des deux personnes se trouvait plus tard dans une situation de détresse, les bébés se tournaient vers la personne avec qui elles ont partagé leur salive pour qu'elle vienne en aide à celle en difficulté. Oui, donc on imagine dans un lot de personnes, les bébés avaient vu celle qui avait échangé en gros leur salive et pensaient qu'on pouvait compter sur ces personnes-là. Je pense que c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. L'équipe a également collecté des données issues d'échantillons représentatifs de parents aux États-Unis qui suggèrent que les enfants ont plus tendance à avoir des interactions durant lesquelles ils échangent de la salive avec des personnes de leur environnement proche, comme leurs parents, plutôt que d'autres personnes qu'ils rencontrent comme des amis ou leurs nounous. Bon, on est quand même un peu rassurés, parce que si déjà les bébés commencent à échanger leur salive avec tout le monde, donc c'est pas le cas. Mais c'est vrai que pour le coup, quand on est en contact avec des bébés, on sait qu'on est facilement en contact avec leur salive. Ça, pour les bébés, donc partager sa salive peut donc être considéré comme un indicateur de l'étroitesse d'une relation entre individus.
D'accord.
Donc, ce que nous explique toujours Ashley G. Thomas, c'est que les relations sociales sont très importantes pour les bébés et les enfants. Ils essayent ainsi de comprendre qui, mis à part leur cercle le plus étroit, peut être considéré comme quelqu'un de confiance. C'est aussi un moyen d'initier et de maintenir une parenté étroite. Dans nos relations plus lointaines, partager des fluides comme la salive peut nous répulser. Alors, je trouve ça bien que ce soit cité quand même à ce moment-là de l'article, parce que oui, je suis assez d'accord, ça peut nous répulser, mais même peut-être dans des cas proches. Hein. Voilà. Toutefois, et c'est là où ça rebondit sur ce que je disais, prendre soin d'un enfant implique en général d'avoir ce genre d'interaction. Et alors là, phrase assez drôle dans l'article, avec eux, quelle que soit la quantité de bave, nous n'éprouvons pas de dégoût. Alors je nuancerai cette phrase. Je donne mon avis là sur l'article. Je pense que ça dépend. Oui, quand on est les parents, je pense bien sûr, il n'y a pas de souci, c'est son propre enfant. Des fois, quand on doit garder certains enfants, moi je nuance. Hein, voilà. Donc ces travaux, finissons quand même sur ces travaux qui mettent en lumière comment les enfants évaluent les structures sociales complexes autour d'eux. Et qui soulève également de nouvelles questions. Alors bon, déjà, je trouve ça super intéressant de savoir en effet comment les enfants ont comme ça cette conscience des interactions sociales et de ce qui se passe dans l'environnement proche. Et dans les nouvelles questions, eh bien, par exemple, il serait intéressant de savoir quelles interactions ont le plus de valeur pour les enfants et lesquelles ils estiment être les plus importantes. Ce que disent les chercheurs, c'est que par exemple, ils n'ont pas évalué en fait ce que les bébés ou les enfants pensent des bisous. Voilà, et il relève également qu'il peut y avoir un biais, puisque les tests effectués, c'est simplement chez des enfants qui vivent aux États-Unis. Dans de futurs travaux, ils aimeraient bien essayer de savoir si les bébés et les enfants dans d'autres parties du monde ont la même façon de comprendre les relations sociales. Certainement bien qu'on sûr. Verrait des différences bien culturelles. Sûr. Reste aussi à savoir si les enfants, le meilleur pour la fin, attribuent la même importance au partage d'autres fluides corporels, je vais donc préciser, essuyer des larmes, moucher quelqu'un, changer une couche, dans leurs interprétations des relations sociales. Voilà. En tout cas, ce n'est pas des études auxquelles je participerai en tant que volontaire. On l'a bien compris. Mais je trouve que c'est très intéressant.
C'est dommage qu'on n'ait pas dans la playlist de graphie de Big Bisou de Carlo. J'aurais mis ça
aurait enchaîné parfaitement.
Mais je ne l'ai pas, donc c'est dommage. C'est l'animateur fantôme qui va prendre le relais, bien sûr. Merci Carole pour cette émission aujourd'hui.
Bah, merci
Jean-Noël. On se retrouve bientôt, je l'espère, sur l'antenne de Graphite. C'est la fin de cette émission. On se retrouve samedi prochain, 12h sur l'antenne de Graphite. La rediffusion mardi à 10h sur graphite.net et le 94.9 sur la bande FM.
À très bientôt.
À bientôt Carole, Big Bisou. Au revoir, bonne journée.